Reste en courtois. Richard de Sèze.
Et oui, j'étais là tout à l'heure, mais je suis là encore maintenant. Et nous allons aborder trois sujets successifs. La canicule, les OQTF et l'ARCOM dans son dialogue avec CNews, son dialogue constructif. Commençons par la canicule. Les politiques français nous ont appris qu'il faisait chaud. Et nous l'avons nous-mêmes ressenti pour une fois. Et cette canicule historique, 50 départements placés en vigilance rouge, des températures supérieures à 40 degrés dans certaines régions, on nous annonce d'ailleurs 45 degrés début juillet, c'est une espèce de surprise incroyable parce que la canicule, ça arrive quand l'été vient et l'été vient chaque année. Et malgré tout, on a l'impression que les politiques ont été totalement surpris. Heureusement, Laurent Nunez nous a expliqué que ce n'était pas un fiasco, qu'il était lui-même assez content de la manière dont le gouvernement avait géré la chose. Et Emmanuel Macron, de son côté, sur son compte X, a diffusé une affichette en expliquant qu'il fallait fermer les rideaux, boire de l'eau et tenir son corps mouillé. C'est une chose à laquelle il est sensible généralement. Jean-Yves Le Gallou, que pensez-vous de la manière dont la mairie de Paris a commandé des ventilateurs, dont Sébastien Lecornu a commandé en urgence 30 000 climatiseurs? Est-ce qu'à votre avis, les politiques ont été à la hauteur de l'événement?
Je crois que l'événement, le fait que les politiques nous racontent depuis 30 ans ou 40 ans qu'il y a un réchauffement climatique, ce qui est exact. Mais ils ont surtout insisté depuis 30 ou 40 ans sur le fait que c'était un méchant réchauffement climatique parce qu'il serait dû à l'action humaine et que donc il fallait combattre le réchauffement climatique. Et toute la politique qui a été conduite a été centrée autour de l'idée qu'il fallait combattre le réchauffement climatique. Comment ? En limitant les gaz à effet de serre en France, qui en émet très peu par rapport au reste du monde, et pas du tout en s'adaptant au réchauffement climatique. Et donc, le combat contre le réchauffement climatique a été évidemment perdu, parce que même à supposer qu'il soit d'origine anthropique, c'est pas l'action de la France qui renvoie 1% de l'ensemble des gaz à effet de serre de la planète qui pouvait changer les choses. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être prévoir un certain nombre d'adaptations. Et effectivement, dans l'adaptation, il y a probablement tout ce qui est autour de la climatisation. C'est en tout cas l'inverse qu'on a fait, puisque dans les diagnostics DPE, le fait de climatiser une maison contribue à dégrader le diagnostic. Donc on a fait la politique inverse de celle qu'on aurait dû faire. Après, on se trouve démunis quand il fait chaud fin juin, début juillet ou mois d'août.
La climatisation est une mauvaise adaptation. Alexis Poulain, cette mauvaise adaptation que serait la climatisation, c'est ce qu'on met d'un côté. L'autre côté, c'est la bonne adaptation, comme par exemple supprimer des épreuves du bac, fermer des écoles, supprimer des manifestations. Il y a une manière intelligente de s'adapter qui consiste à emmerder le citoyen jusqu'à la garde.
Oui, l'épisode caniculaire avait des relents de Covid. On était à deux doigts d'avoir l'autoconfinement, un télétravail, les enfants interdits d'école. Tout était fait pour reprendre le contrôle. L'alcool interdit, les amendes parce qu'on était au bord de l'eau, les baignades interdites, les piscines interdites. On voit que dès que l'État doit prendre une réponse, c'est celle de l'emmerdement maximum et du contrôle de la vie des autres et des citoyens. Et effectivement, cette passion française pour la flagellation et l'anticlim, elle a atteint son paroxysme avec Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui a fait fortune au VVF, qui lui a permis d'acheter une magnifique villa climatisée dans le sud de la France avec piscine. C'est quand même pour dire, mais la climatisation, c'est pas ça qui va empêcher des cultures de disparaître, les animaux de mourir, etc. Ça n'empêche rien. Elle ose dire que la climatisation n'empêche rien. Allez dire ça à ceux qui sont décédés de la chaleur chez eux parce qu'ils n'ont pas pu réguler leur température et que leur cœur s'est emballé. C'est scandaleux en fait. Ces gens-là sont proprement scandaleux. On fait semblant de voir le long terme alors qu'il y a zéro planification. Et quand il y a une réponse d'urgence, évidemment, il est trop tard. Là, la réponse, c'est d'acheter 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux. J'aimerais savoir où vont aller ces climatiseurs, quels vont être les modèles, comment et quand ils vont être installés, et surtout quand ils seront livrés, sans doute en décembre.
Oui, c'est, sans doute. Sans doute
ah bah, ça sera utile l'année d'après,
oui,
quand même.
Oui, voilà, ouais, c'est une planification de long terme. Ouais. De votre côté, Xavier Van Lier, effectivement, quand Monique Barbu, dont on a tous appris qu'elle existait, d'ailleurs, il faut souligner la remarquable discrétion qui était la sienne, quand Monique Barbu nous dit « Et vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ?» Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien, rien. Donc, ce n'est pas de l'adaptation. Et pensez-vous, donc, que Monique Barbu, avec ce cri du cœur émouvant, a été, elle aussi, à la hauteur de l'événement et, en tant que bonne ministre de la Transition écologique, nous a aiguillé sur la bonne voie de l'adaptation climatique?
Je pense que sa réaction et sa tirade est assez emblématique. D'une part, d'un lien assez distendu avec la rationalité et avec la science, alors qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Mais par ailleurs, vous avez vu, elle se place d'emblée à un niveau qui est celui de l'eschatologie, en réalité. C'est-à-dire que tout de suite, on parle de la terre qui brûle, des forêts qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le niveau de gestion et d'action qui devrait être celui du politique, c'est-à-dire de protéger ses concitoyens des conséquences de ce réchauffement. Mais dans une perspective punitive, en réalité, nous devrions expier et on sent qu'il faut rejeter tous les moyens qui viendraient contrarier l'expiation de nos péchés, je ne sais pas, d'hommes blancs, patriarcal, européens, scientistes, technophiles et autres. Je crois que c'est la raison profonde pour laquelle ils n'aiment pas la climatisation et ils n'aimeraient en réalité aucune mesure d'adaptation, c'est qu'il faut qu'on souffre. Il faut qu'on souffre. Et ce qu'on ressent derrière tout ça, c'est quelque chose d'assez négatif. C'est-à-dire que ces gens sont non seulement doloristes, mais on sent aussi une petite pulsion de mort. C'est-à-dire que quand les catastrophes se produisent, il y a une part de jouissance chez eux quand même, qu'ils ont quand même beaucoup de mal à cacher, et ils ne s'énervent que lorsqu'on propose des solutions. C'est quand même curieux de s'énerver contre des solutions. C'est-à-dire que ça, si on a une solution à un problème, quelque chose qui amoindrit la souffrance, la douleur ou les effets néfastes d'un phénomène, on devrait se réjouir. Chez eux, c'est le contraire. Ça les énerve. Il faudrait qu'il n'y ait pas de solution.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je pense que si ces gens-là avaient existé à l'âge glaciaire, ils auraient lutté contre le feu, l'utilisation du feu pour se réchauffer, je pense.
Bah, oui, effectivement, on sent que l'idée qu'il suffise d'appuyer sur un bouton les exaspère profondément. Et d'ailleurs, on voit bien ça parce que, par exemple, des parents totalement inconscients ont décidé d'apporter dans des écoles évidemment sous-équipées des ventilateurs ou des climatiseurs et on leur a refusé ces climatiseurs, on leur a refusé ces ventilateurs, ils sont repartis avec, gros gens comme devant, parce que l'école n'avait pas fait en sorte de tester ces ventilateurs et ces climatiseurs. On ne sait pas, ils auraient pu exploser au milieu de la classe, le ventilateur aurait pu décapiter quelques élèves sans qu'aucun Tchétchène ne soit impliqué dans l'affaire. Et donc, on sent, ce que vous avez parfaitement raison, Xavier Van Lier, on sent que l'idée que la solution soit facile était terrible et même qu'il fallait que les gens en souffrent un peu plus. Vous avez souligné tout à l'heure, Alexis Poulain, l'interdiction de vente de l'alcool. Le plus drôle et le plus tragique étant que les cavistes étaient censés rester quand même ouverts, puisque chez certains cavistes, on peut acheter de l'eau, des jus de fruits. Et donc, le caviste avait le droit donc de rester ouvert dans sa boutique en vendant, en exploitant à perte, puisque à défaut de vendre tout ce qui aurait pu étancher la soif des gens, comme par exemple du champagne mis au frais, il avait le droit de vendre un peu de l'orangina qu'il avait gardé dans un coin, dans sa réserve de canettes. Ça appelle une réaction de la part des gens.
À qui vous adressez-vous ?
Non, bah je jetais ça sur la place publique. Là, je me suis dit, on est entre adultes consentants, ce sont tous des grandes gueules, il n'y a pas besoin que je distribue la parole. Arthur de Vatrigan, que pensez-vous du sort atroce des cavistes ?
Ce qui est fascinant, c'est qu'on manque de tout en France, on avait compris. Hein, dès qu'il y a un problème ou dès qu'on découvre quelque chose, on voit qu'on est au niveau du tiers-monde. Par contre, en idée à la con, là on est champion du monde, quoi. C'est fascinant, l'imprimante de la préfecture, les arrêtés préfectoraux, là ça tourne à plein régime, ça imprime, on veut, on voit là. Mais en fait, c'est que l'État, il ne se contente même plus d'être absent, c'est qu'il est présent là où il est inutile. Il est nounou, voire pion, avec le tout venant, les gens normaux, et il est lâche et paillasson avec les barbares. Donc, moins il tient le pays, moins il gère le régalien, et plus il va nous faire chier, là, on n'a pas besoin de lui. Donc, c'est aberrant et fatigant, et je rappelle que pendant qu'il interdisait les cavistes de vendre du pinard, il laissait une gamine se faire violer, et un gamin de la SE se faire lyncher une deuxième fois et laisser pour mort, et filmé par des espèces de racailles immondes. Donc, on a eu ça quand même en une semaine. Hein. Cette séquence a duré une semaine. Je ne sais pas si on se rend compte dans quel pays de taré on dit. C'est l'Asie d'assez ouvert. Donc, je pense qu'en effet, l'État ne supporte pas être à l'origine des choses, comme tous les bons progressistes. Et en plus, je suis d'accord avec Xavier, il y a une pulsion de mort qui rôde partout. Vous avez vu cette séquence au Parlement sur la loi pour buter les fragiles là, qui sont en train de voter. Il y a quand même un type, un député, qui a expliqué qu'il y avait des fragiles qui crevaient le chaud.
Un député Renaissance.
Le député Renaissance, qu'on accélère vite la loi pour qu'on puisse seringuer celui qui a chaud et qui crève de la pellicule. Mais alors moi, mes chers députés, économisons, hein. On va fermer les fenêtres, on fait une pénurie d'eau, il va crever tout seul, ça sera une euthanasie, mais ça coûtera moins cher qu'une seringue ou un rendez-vous à l'hôpital.
Eh bien, merci pour ces idées pratiques, ce côté système D dont nous sommes si contents en France. L'enseigne des surgelés Picard a mis à disposition des pompiers de Paris ses chambres froides, a indiqué sa patronne, Cécile Guillou. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas pour accueillir les morts de la canicule, c'est pour que les pompiers puissent y stocker de la glace pour les centres de secours qui en ont besoin. Que pensez-vous, Alexis Poulain, de la manière dont la société civile essaie de plus en plus de pallier les insuffisances de l'État?
J'en parlais là, dans une récente interview. J'y vois un parallèle avec, vous savez, ces sociétés en effondrement du bloc soviétique, où clairement les citoyens se rendent compte que l'État ne gère plus rien. En fait, c'est une machine folle qui gère le contrôle, la censure, toutes les lois d'interdiction, etc. C'est ce qu'on voit en France. Mais pour ce qui est de l'organisation de la vie, la solidarité et le bien-être, chacun doit créer des chaînes de solidarité et puis la débrouille. Il y avait ça, il y a les parents d'élèves qui amènent les ventilateurs pour que les élèves passent le brevet. Et donc, j'y vois en fait une longue marche, entre guillemets, vers la chute de cette image qu'avait l'État en France, hein, d'État protecteur, État nounou, État machin, un État digne d'une république soviétique, en cours d'effondrement. Et c'est vraiment la fin d'un système. Le problème, c'est que cet État est mieux organisé que celui des républiques soviétiques, qu'il continue d'être kleptocrate, qu'il continue de s'auto-financer, de s'auto-organiser, avec quand même des gens comme Monique Barbu, qu'on ne connaissait pas, qui sont payés très cher pour être dans le déni, pour dire qu'ils ont fait un travail exceptionnel, que l'adaptation, elle est formidable, et donc ça peut continuer longtemps. Mais côté citoyen, je pense que ça y est, il y a un cap qui a été passé. Le fait que ces axes de débrouille se multiplient dans tous les strates de la société, ça dit quelque chose de l'effondrement actuel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'État macroniste se concentre sur les fonctions de censure, parce qu'on est vraiment dans un effondrement.
Alors, on reparlera de censure avec le dernier sujet de cette soirée.
Mais c'est lié.
C'est lié, tout à fait. Et voilà, l'ARCOM et CNews. Je voudrais juste un dernier petit fait amusant que le président Bouclet avait repéré. Le sommet intitulé « Canicule, améliorer la gouvernance et renforcer l'action à travers le monde », sommet décidé, évidemment, bien avant que la canicule nous tombe dessus, parce que malgré tout, à défaut d'être capable d'acheter des climatiseurs un an avant, ils sont capables de programmer des événements pour parler de la canicule un an avant. Et donc, ce sommet qui devait se tenir à la London School of Economics a été annulé à cause des trop fortes chaleurs. Voilà, parce que l'établissement qui est bioclimatisé, énergie solaire, végétalisation et circulation de l'air optimisée, donc qui n'était pas équipé en climatisation électrique, ne pouvait pas accueillir les participants qui refusaient d'y suffoquer. Voilà, sachant que c'est exactement cette climatisation cette absence de climatisation dont on a prévu d'équiper les hôpitaux comme à Nantes. Voilà, donc si je sens que ce sujet de la climatisation vous a totalement anesthésié. Non, pardon, vous avez vendu l'air.
En fait, je pense qu'il y a aussi chez ces gens, à la fois chez les écolos, chez les filles, et pour une part dans la Macronie, une gestion managériale de la société, et ils avaient un plan de com, un plan de conduite du changement. Et ce plan de conduite du changement était finalement assez simple. Eh bien, il y a de la canicule, les gens meurent, Et ensuite, du coup, on peut actionner quelques cliquets de plus dans une société de contrôle planificatrice, totalitaire, etc. Et accuser, culpabiliser ceux qui continuent de vivre selon l'ancien mode, c'est-à-dire dans l'autonomie, en consommant ce qu'ils souhaitent, en se déplaçant librement, etc. Et Dieu merci, le débat sur la climatisation est venu mettre par terre tout ce narratif déjà bien rodé et prévu à l'avance. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu d'accuser les Français qui continuent à manger de la viande, rouler en voiture, à fumer des clopes, etc., d'être vraiment des salauds responsables de la mort de ces pauvres gens. Dieu merci, le débat sur la climatisation est venu renverser l'accusation. Et donc, j'espère qu'on est tranquille pour un moment. Les gros nuls, ce sont ceux qui ont...
refusé de climatiser
tous les moyens sur la lutte contre le réchauffement climatique et pas son adaptation, puisqu'il s'agit bien de deux choses totalement différentes
et même antinomiques. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous dit: merci pour cette émission rafraîchissante. Ce refus de toute solution telle que la climatisation, ce n'est pas du dolorisme, c'est l'idée que plus les gens souffriront, plus ils seront nombreux à être partisans de la décroissance
aussi.
Et un autre...
Oui, je voudrais émettre une petite explication sur le surréchauffement actuel en France et peut-être en Europe, puisque les moyennes des températures ont, semble-t-il, un peu plus augmenté que les moyennes mondiales. Et une des explications, je ne dis pas que c'est l'explication, mais une des explications possibles, c'est les efforts qui ont été faits, et là qui étaient plutôt des efforts heureux, pour limiter les aérosols, limiter les particules fines et peut-être limiter aussi les rejets carbonés. Et donc, c'est peut-être ces efforts-là qui n'étaient pas forcément mauvais et qui ont des aspects tout à fait positifs, qui expliquent qu'il fasse un peu plus chaud, que la température augmente un peu plus que dans d'autres parties du monde. Voilà.
Merci Jean-Yves. On va abandonner ce sujet sur la canicule, parce que grâce à Dieu, on va à nouveau en souffrir.
On est climatisé ici.
Alors, je tiens à dire, et notamment à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent, nous ne sommes climatisés que dans le studio, parce que nous y recevons des invités de prestige, comme Olivier Pouvremonti ou Jean-Yves Le Gallou, mais dans les bureaux de Radio Courtoisie, nous n'avons droit qu'à un ventilateur, et encore, le deuxième a été livré vendredi dernier. Et donc, nous avons passé la canicule à souffrir en silence et dans la chaleur, mais pour vous, chers auditeurs. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous citer, justement, certains auditeurs remarquables, comme cet auditeur de Cherbourg, en Cotentin, dans le Cotentin, qui envoie 100 euros. Cotisation de mi-saison pour aider la radio à passer l'été avec sérénité, avec quelques belles émissions, de préférence en direct, nous vous avons écouté. Pour nous aider à mieux suivre et décrypter l'actualité, Radio Courtoisie reste ma préférence en matière d'information. Longue vie et prospérité à notre radio, à ses directeurs, animateurs, techniciens et bénévoles, grâce à laquelle, avec quelques autres médias, nous pouvons garder une bonne santé mentale en nous aidant à nous immuniser de l'aliénation douce et perverse déployée par les ondes tenues par les tenants du soviet wokiste européen. Voilà, je crois qu'il a réussi à résumer à peu près 30 ans de Radio Courtoisie en un seul don de 100 euros. Merci beaucoup à cet auditeur de nous aider à passer l'été. Et d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez, soutenir.rc.fr, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. 1 euro ou 2 euros pour passer l'été. Si chacun de ceux qui nous écoutent nous en envoie ne serait-ce qu'un cette semaine, l'été est avalé sans souci et sans canicule. Parlons maintenant d'un autre sujet, qui est celui de du maire de Chécy, l'ex-maire qui a finalement été condamné, c'est la mairie qui a été condamnée à Chécy, Seine-et-Marne, à verser 6 000 euros à un ressortissant algérien et à son épouse finlandaise après avoir refusé de célébrer leur mariage durant plusieurs mois. L'homme était visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français au moment du mariage, et donc cet Algérien en situation illégale avait voulu absolument se marier à Chécy, manifestement pour obtenir une régularisation. L'enquête légale et obligatoire de la mairie avait débouché sur des soupçons trop forts pour célébrer le mariage, et le couple a porté plainte. Et donc, le 27 janvier, le maire Olivier de l'époque, Olivier Bourgeot, avait été enjoint par le tribunal judiciaire de publier les bans du mariage sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. La commune avait devait appliquer la décision de justice. Le maire avait préféré démissionner. Le nouveau maire, Cyril Marceau, lui, a fini par céder en avril pour que ses administrés ne paient pas davantage l'amende qui était passée à 3 000 € par jour de retard. Et donc, on a fini, le tribunal administratif, dans sa grande miséricorde, a fini par diminuer l'amende. Et on se retrouve donc avec un mariage qui a été célébré. La mariée réside depuis à l'étranger et le marié est dans le Val d'Oise, donc en contradiction évidente avec le domicile mentionné dans leur acte de mariage. Voilà, Jean-Yves Le Gallou, c'est une décision administrative parce qu'on ne peut pas refuser un mariage à quelqu'un. Et d'ailleurs, l'UDR vient d'essayer de faire passer une loi jeudi dernier à l'Assemblée nationale pour aider les maires à lutter contre ce genre de demande aberrante. Et la gauche a mis en œuvre toutes les oppositions possibles et imaginables, notamment avec des amendements qui contenaient des chansons ou des poèmes de Victor Hugo. Voilà, donc, forte créativité des élus de gauche. Les discussions se sont éteintes à minuit, donc la loi n'a pas été votée.
Alors, deux choses. D'abord, comme l'a dit Pouvremonti tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, avec une virgule, il fait un poème. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'a fait le tribunal administratif avec une surinterprétation de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de la famille, il a dit il y a un droit au mariage, un droit sacré au mariage qui transcende tout autre chose, y compris le fait de séjourner régulièrement dans un pays. Là où on voit que c'est une surinterprétation de nos juristes français, c'est qu'en Allemagne et en Suisse, où il y a a priori les mêmes références à la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, on ne peut marier un étranger que s'il dispose d'un titre de séjour régulier. Donc c'est exactement l'inverse du système français. Alors, M. Ciotti et l'UDR ont déposé une proposition de loi. Alors, c'est bien et c'est mal. C'est bien parce que l'idée, c'est de dire, on va essayer de faire voter des projets, comme ça, des propositions, pardon, comme ça on montrera qu'on est positif, qu'on est utile. Or, en fait, ça n'a pas fonctionné, puisque la loi, finalement, n'a pas été votée, alors qu'elle était de simple bon sens, et le temps a été un petit peu perdu, finalement, pour une micro-réforme, alors que ce type de loi, si elle avait été votée, réglait à peu près le 10 000e ou le 100 000e des problèmes. Et donc, est-ce que c'est pertinent de se battre sur des virgules, encore une fois, dont le Conseil constitutionnel ou les cours administratives font des poèmes?
Arthur de Vatrigan, vous considérez que la mairie de Chessy est justement condamnée, que le tribunal administratif a fait preuve d'une créativité incroyable, qu'après tout, cet Algérien avait bien le droit d'épouser une Finlandaise et que cette Finlandaise avait bien le droit d'aller vivre ailleurs. Et qui sommes-nous pour juger?
Oui, évidemment, au nom de ma charité, mon amour pour les autres et mon inclusion. Mais ce qui est fascinant, c'est que je ne sais pas depuis combien d'années on finance notre suicide, soit par des fonds, soit par des lois. Parce que sur le principe même de marier un OQTF, derrière, on sait pertinemment que le fait qu'il soit marié, donc qu'il ait un mariage en France, alors là, c'est une Finlandaise, mais la question a pu se poser avec des Françaises, ou c'est une OQTFE avec un Français, mais c'est plus rare, disons, on sait que ça l'empêchera encore plus l'État d'appliquer une OQTF, ou même un juge pourra dire que l'OQTF ne tient plus parce qu'il est marié. Et on est dans un truc complètement ubuesque, mais il me semble qu'il y avait cette proposition de loi d'Éric Ciotti, il y avait déjà une ancienne proposition de loi, cette fois-ci centriste, mais pareil, d'un sénateur centriste, et qui n'avait pas pu aller également jusqu'au bout. Donc c'est toujours le même problème, hein. C'est encore une fois une vieille jurisprudence, c'est-à-dire une surinterprétation, comme Jean-Yves Le Gallou l'a parfaitement décrit, du Conseil constitutionnel qui donne raison à toutes les associations et hommes politiques militants. Parce que je rappelle que le grand Éric Coquerel avait expliqué que refuser un OQTF, le mariage d'un OQTF, c'était un acte raciste, évidemment, comme chacun sait. Donc ça donne raison, en fait, à tous ces militants. La question que je pose, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel fait preuve de mansuétude, fait preuve de bêtise, a juste envie d'emmerder le politique et dire que c'est le chef, ou sont carrément dans une idéologie immigrationniste jusqu'au boutiste, et donc c'est uniquement par idéologie qu'il crée des jurisprudences? Oui, ça, je n'ai pas la réponse.
Jean-Yves Le Gallou.
Peut-être une précision, effectivement, le tribunal administratif à considérer, ou dans les commentaires qu'on a lus de la décision du tribunal administratif, on a dit que le tribunal administratif applique la loi qui, effectivement, oblige à marier les gens qui le demandent indépendamment de leur situation administrative. Or, ça n'est dans aucune loi, mais c'est dans une décision, effectivement, du Conseil constitutionnel qui a été prise, il y a pas mal d'années, puisqu'elle a été prise à l'époque où M. Robert Badinter présidait le Conseil constitutionnel. M. Robert Badinter, quand il est allé au Panthéon, j'ai pas entendu beaucoup de protestations de la part de la classe politique, y compris de ceux qui aujourd'hui s'opposent à cette disposition sur le mariage des OQTF, c'est-à-dire que le mal,
la liste exhaustive des méfaits de Badinter, et qu'on la fasse passer à tous les députés pour qu'ils puissent à chaque fois se dire zut, j'aurais dû réagir à ce moment-là.
Ah ben, ça remonte à longtemps, voilà.
Le 93 la jurisprudence.
93.
Alexis Poulain, dans cette décision de justice, il y a quelque chose qui m'a frappé. Donc, c'est en 2025 que les gens veulent se marier. En 2025, la mairie refuse, ils portent plainte. Le tribunal administratif juge tout de suite que la mairie a tort et donc fait tout de suite courir les astreintes. Une rapidité dans la réponse absolument remarquable.
Ah ben toujours. C'est vraiment sur des dossiers de ce type-là qu'on voit une justice extrêmement rapide, alors que sur des dossiers d'urgence, où il est question d'atteinte aux personnes, de risque de mort, on a une nonchalance qui pose question. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a des priorités, enfin ce n'est pas une impression d'ailleurs, je pense qu'il y a des priorités politiques qui sont soit portées par des juges politiques, soit portées par une administration entière, qui sont loin devant la priorité qui serait de protéger les citoyens.
Xavier Van Lier, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une autre solution? Par exemple, il s'avère que l'Algérien est sous OQTF, donc on l'oblige à effectivement réellement quitter le territoire français, et une fois qu'il est revenu dans son pays, l'Algérie, qui est un pays de droit, on lui laisse toute liberté d'ester en justice et de chez lui faire en sorte d'accuser l'État français. Pourquoi ne pas considérer donc qu'ayant une première fois violé la loi, il était d'abord passible de respecter cette loi, et une fois qu'il a donné les gages de ce respect, d'aller au bout de sa démarche?
Oui, on aurait pu l'imaginer, ça aurait été une très bonne solution, vous devriez vous faire de la politique, Richard.
J'avais décidé d'annoncer un peu plus tard, je suis désolé.
Ou du droit, en tout cas, vous mériteriez d'être au Conseil constitutionnel. Donc ce qui est fascinant dans ce cas-ci, comme dans bien d'autres, c'est de voir à quel point l'État est devenu l'ennemi du peuple français, l'ennemi de ses libertés, l'ennemi de ses libertés individuelles, mais aussi de ses libertés politiques et de sa souveraineté. Tout le monde en France, enfin, Sarah Knafou le disait très habilement récemment, l'immigration, c'est le sujet le plus consensuel qui existe parmi les Français. Plus de 80% souhaitent une inversion des flux migratoires, plus de 80% considèrent qu'on ne se sent plus chez soi en France comme auparavant. Donc cette aspiration devrait quand même être écoutée, et lorsqu'elle est écoutée par des autorités intermédiaires comme les maires, qui simplement font acte de bon sens et écoutent leurs concitoyens, peut-être parce qu'ils vivent parmi eux, eh bien l'État les brime. Comme le disait Alexis Poulain, on est dans un système en voie d'effondrement, de dégénérescence, et la seule chose qui reste à l'État, c'est de serrer sans cesse, plus durement le corset qui enfreint et qui brime et qui bride les aspirations du peuple français. Ça va mal se terminer, en réalité, ça va mal se terminer. Voilà, j'en suis désormais persuadé. Soit il y a une prise de conscience globale des institutions pour répondre aux aspirations, sinon, un jour ou l'autre, ça va mal se terminer.
D'ailleurs, la mort de Louis, battu à mort par des gens qui n'appartenaient pas à la même société que lui, a abouti à ce qu'il y ait une manifestation à Narbonne qui est avec 1000 personnes. La justice n'a repéré que 300 identitaires, c'est-à-dire qu'en fait, les Narbonnais étaient scandalisés par ce meurtre et ont manifesté. Et la mère de la victime a expliqué que, au lieu que vous n'aurez pas ma haine, etc., que l'heure était à la guerre. Autrement dit, les Français sont en train de se dire, et donc je parle d'une mère de famille dont le fils confié à l'aide sociale à l'enfance, donc autrement dit, dont un juge a considéré que l'État s'en occuperait mieux qu'elle, a réussi à produire le fait que cette mère pleure son fils en voulant déclarer la guerre à l'État plutôt que de se coucher devant une justice inefficace, une police qui a été inefficace et les responsables de l'ASE qui ont été inefficaces. On est quand même en train d'assister à une révolte, comme vous le disiez, Gavin Lyon. Qu'en pensez-vous, Alexis Poulain ?
Oui, il y a clairement un rejet. Enfin, rendez-vous compte, les affaires s'accumulent, se succèdent à une vitesse phénoménale. On a une réponse, finalement, d'une caste, celle des magistrats, qui explique que tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et puis une réponse aussi étatique avec la police qui arrête des gens qui font des manifestations contre la pédocriminalité devant les tribunaux. On en est là. Donc la colère, elle est profonde. Et surtout, je pense qu'on a dépassé le cadre de faire un tour d'horizon et un bilan de ce qui ne va pas. On est au courant de ce qui ne va pas. Maintenant, c'est le déni, en fait, de ceux qui gouvernent, entre guillemets, et leur refus d'action qui va pousser à l'action citoyenne, avec le risque, effectivement, de la justice par soi-même, de sortir complètement du cadre. Et c'est un vrai danger, parce que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience de cette colère qui monte et qui ne fait que monter, et que la caste qui profite largement de ce système restera dans un déni confortable, ça ne fera qu'empirer.
Ça ne fera qu'empirer. On va peut-être passer au dernier sujet, parce que on est justement, à mon sens, dans ce que vous souligniez tout à l'heure, qui est ce grand lien d'une caste et de ses règles, et du coup aussi de cette caste et de ses gardiens. C'est l'ARCOM qui a mis en demeure CNews de respecter ses obligations en matière de respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et Maxime Saada a publié une lettre tout à fait intéressante, une lettre ouverte dans le Figaro, en disant que « Je n'ai pas connu le temps où, depuis un bureau, l'État décidait de ce que les Français avaient le droit de regarder et d'entendre. Je croyais ce temps derrière nous, je me trompais. La toute dernière mise en demeure de l'ARCOM, de CNews, pardon, rendue il y a quelques jours par l'ARCOM, vient d'ouvrir une brèche dans laquelle tout le paysage audiovisuel français risque de s'engouffrer. » Et il pointe plusieurs phrases de l'ARCOM, et notamment l'une des raisons de cette mise en cause, qui est, je cite l'ARCOM, la répétition marquée d'une séquence à l'autre des mêmes commentaires et opinions s'observe principalement s'agissant de l'action de l'exécutif en raison de positions perçues comme insuffisamment fermes ou cohérentes. Autrement dit, ce que reproche l'ARCOM à CNews, c'est le fait de critiquer le gouvernement. Voilà. Qu'en pensez-vous, Arthur de Vatrigan ?
Cette phrase est complètement lunaire, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se cache pas. C'est qu'ils assument complètement, ils auraient pu trouver des stratagèmes en expliquant, parce que je pense qu'en travaillant un peu, ils auraient pu très bien démontrer que CNews ne respecte pas les règles de l'ARCOM, les règles de l'ARCOM étant complètement stupides et inapplicables. Mais non, en fait, ils assument, ils disent, c'est vraiment parce qu'ils ne sont pas gentils avec Macron et Laurent Nunez qu'on va le fermer, quoi. Ce qui est quand même complètement aberrant, mais de toute façon, mettez-vous à leur place. Ils décident de fermer CNews, il se passe quoi ? Concrètement, vous aurez trois vieilles avec un panneau devant l'ARCOM s'ils arrivent à trouver l'adresse de l'ARCOM pour manifester. Vous aurez deux tribunes dans le Figaro Vox. Vous aurez trois matinales en ligne droite. Et après, rien. Il ne se passera rien. Donc, vous mettez-vous à leur place. Pourquoi vous ne fermerez pas CNews si CNews vous emmerde ? Et qu'est-ce que vous aurez comme conséquence à cette décision complètement unique ? Rien. Donc, malheureusement, je pense qu'évidemment qu'ils vont fermer, mais ensuite, je pense qu'il faut supprimer l'ARCOM de toute façon.
Oui.
L'ARCOM est absurde. Les règles de l'ARCOM sont absurdes. Alors, il faut garder un espèce de machin parce que les fréquences sont en nombre limité, il faut bien que quelqu'un décide comment sont attribuées les fréquences et à qui. Mais ensuite, une fois que les fréquences sont attribuées, et elles devraient être attribuées a priori aussi sur
l'audience.
Le business plan valide, pas que l'audience, mais le business plan, l'originalité, ce que vous voulez. Là, vous avez vu quand ils ont remplacé C8, je ne sais même pas par quelle chaîne ils ont remplacé. Même par hasard, en zappant, je ne suis jamais tombé dessus de ma vie. Et je pense que Médiamétrie, quand ils mesurent, n'arrivent même pas à les mesurer parce qu'ils sont en négatif. Donc rien que ça, déjà, c'est absurde. Mais ensuite, bon, il faut un truc qui décide de... à qui on attribue ces canaux qui sont limités, mais une fois que c'est fait, foutez-leur la paix. Dire la diversité, le pluralisme en interne est complètement absurde. Le seul pluralisme qui devrait être exigé, c'est pour l'audiovisuel public. Et ça, ils ne le font pas. Parce que les reproches qu'ils font à CNews, je dirais OK si vous le faites à BFM, et puis surtout si vous le faites à toutes les chaînes de l'audiovisuel public, où pour le coup, vous avez de temps en temps un type qui est invité comme faire-valoir de tous les autres gauchistes sur le plateau, mais c'est tout. Il est là comme faire-valoir. Tous les autres pensent la même chose. Donc, enlevons le cas CNews, supprimons l'ARCOM, et enlevons ces règles stupides, parce que ces règles fermeront toutes les chaînes. Elles sont inapplicables, ces règles.
Xavier Van Lier, je vous ai senti réagir au juste propos d'Arthur de Vatrigan.
Oui, non, mais il y a une dérive. Enfin, c'est la même conversation que celle que nous avions auparavant. Il y a une dérive totalitaire et liberticide terrible dans ce pays, sous l'impulsion quand même principalement de l'extrême centre. Je crois qu'on peut mettre dans la même conversation ce projet de loi complètement abracadabrant et terrifiant d'Aurore Berger, qui propose donc pour le cas où des politiques seraient condamnés pour toujours la même litanie, hein,
incitation à la haine,
incitation à la haine, etc.
La discrimination.
Discrimination. Et donc, bien évidemment, tombera dans ce périmètre la dénonciation de l'immigration massive à un moment ou un autre, donc de permettre que ces personnes deviennent inéligibles. Donc nous sommes confrontés aujourd'hui à un État, à un pouvoir qui veut pouvoir fermer des chaînes de télévision, qui a commencé à le faire, et aussi à rendre inéligible pour motif idéologique tel ou tel candidat. Et les motifs idéologiques qui poussent à fermer des chaînes de télévision ou à empêcher des candidats de se présenter sont exactement les mêmes. C'est le crime de lèse-diversité. Et ça révèle d'ailleurs que l'idéologie, le cœur de l'idéologie de cet État et de ce régime, en réalité, c'est l'idéologie diversitaire. S'en éloigner, c'est à un moment ou un autre de sa vie, dans sa vie politique, dans sa vie de journaliste ou même dans sa vie sociale, s'exposer à de très forts désagréments et à une répression. Comme c'est par ailleurs quand même le principal sujet politique que les Français ont en tête, vous imaginez la gravité de la situation, c'est-à-dire que le sujet central qui devrait structurer la vie politique, celui sur lequel les Français désirent le plus ardemment que l'on agisse, devient peu à peu le sujet totalement interdit. Donc il faut réaliser l'ampleur de la gravité de la situation. Et c'est pourquoi quand Arthur dit « il ne se passera rien », effectivement, je partage son avis, dans un premier temps, il ne se passera rien, mais toutes ces décisions visant à corseter et brider le libre débat finiront par avoir des conséquences dramatiques à moyen ou à long terme. En réalité, les sociétés démocratiques sont solides parce qu'elles gèrent justement la contradiction, les débats et qu'elles écoutent les aspirations populaires. Aujourd'hui, je suis forcé de constater qu'il y a beaucoup de régimes dits illibéraux, voire même franchement autoritaires, où certes les élections sont encadrées, mais où les dirigeants ont au moins l'intelligence, je pense par exemple au régime chinois, eh bien, je pense qu'ils sentent et ils mettent plus en musique les aspirations des Chinois, même sans avoir un régime démocratique, que notre propre régime prétendument démocratique. C'est absolument dramatique, le fossé est béant, et donc à moyen ou long terme, ça ne peut pas se terminer bien. Regrettable, parce que je ne suis pas du tout pour que ça se termine mal.
Alexis Poulain, vous aussi, vous sentez la tempête qui vient ?
Ah ben, clairement, moi je parlais de colère juste à l'instant. Je pense qu'il y a un tel corsetage de la société par le parti unique, hein, ce parti européiste, centriste, progressiste, qui veut absolument continuer à maltraiter les populations européennes, françaises, bon, on va parler de la France, hein, on voit bien que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est la censure de la parole publique, c'est le contrôle de l'espace public et de la parole politique. Et d'ailleurs, il faut voir comment la démocratie est systématiquement mise en avant par ceux qui veulent changer de régime, qui ont déjà même acté le changement de régime vers un régime de contrôle à l'anglaise, à l'allemande, où on va avoir à un moment un espace public totalement défiguré, où la parole sera interdite, extrêmement contrôlée, l'autocensure va devenir la norme. Et malheureusement, je trouve aujourd'hui les opinions politiques extrêmement peureuses, alors qu'elles devraient défendre l'idéal démocratique et dire « c'est inacceptable ces lois de censure qui sont en train de se mettre en place ». Ce qui arrive à CNews est inacceptable, ce qui est arrivé à C8 également. L'excuse de la protection de l'enfance pour contrôler les réseaux sociaux est inacceptable. Et on a une partie, pourtant, des élus qui collaborent à cet agenda de changement de régime et qui même l'appellent de ses voeux. Moi, je suis extrêmement mobilisé, en colère, outré, et j'essaye de faire en sorte qu'un maximum de personnes comprennent ce qui se passe actuellement en France. C'est un changement de régime, rien de moi d'autre que ça.
Alors, Maxime Saada, dans sa lettre, conclut... Disons les choses telles qu'elles sont, ceci n'est pas une décision de régulation, c'est une décision politique et elle poursuit un seul objectif, faire taire puis faire disparaître une chaîne que des millions de Français choisissent librement chaque jour. Quand ailleurs un pouvoir s'en prend à la presse, la France est la première à s'en indigner et elle a raison de le faire. Mais on ne dénonce pas au dehors ce que l'on s'autorise au dedans. De toutes les démocraties où notre groupe opère, le groupe Canal+ est présent sur tous les continents, je n'en connais aucune autre qui soit allée jusqu'à retirer sa fréquence à une chaîne, aucune, sauf la France. Arthur de Vatrigan.
De toute façon, ceux qui font du bruit sur ce qui se passe à l'étranger, c'est pas nouveau. Rappelez-vous toutes les manifs Place de la République où les gens, nos chers bobos et vertus de morale, allaient enjamber les clochards pour manifester contre les Congolais qui crevaient la dalle. Donc bon. C'est pas nouveau, c'est comme ça. Il y a ce paradoxe, c'est qu'on a une époque, je pense, et ce sont ceux qui sont plus anciens, qui ont connu les époques d'avant, où il y a beaucoup plus de médias, il y a beaucoup plus de pluralisme dans la presse qu'avant. C'est facile, vous regardez, il y a une réalité, il y a beaucoup plus de pluralisme, et vous avez également l'émergence des réseaux sociaux qui montrent qu'il y a un contre-pouvoir. Le problème, il est politique. Et en effet, comme disait Alexis Poulain, le problème vient du politique et du peu de courage de ceux qui ne sont pas d'extrême-centre à se dresser contre l'extrême-centre. Et je mets les réseaux sociaux à part, parce qu'on a déjà eu ce débat, je ne suis pas du tout d'accord sur les enfants et les réseaux sociaux. Mais mettons ça à part. Le problème, c'est en effet les médias. Moi, j'entends jamais les députés du Rassemblement national s'élever contre ça. Je les entends pas. Pourtant, c'est le premier parti d'opposition, a priori. Bon. Il y a une élection dans un an. Il va y avoir un nouveau président. Il va y avoir une nouvelle assemblée. C'est-à-dire, si un nouveau président, un nouveau gouvernement qui a une majorité, même courte, mais une majorité quand même, toute cette dérive autoritaire que nous sommes en train de vivre, ça disparaît du jour au lendemain. On a uniquement des décisions politiques. Alors, vous allez me dire, il y a le Conseil constitue. Bon, ok. Et si le gouvernement passe une loi et que le Conseil constitue dit non, et que le gouvernement dit je vous emmerde et je fais un référendum, il se passe quoi? Il se passe rien. Et le Conseil constitue disparaît. Donc c'est une volonté politique. On a un paysage médiatique qui est bien plus équilibré qu'avant. Bien plus. Et si vous regardez en plus dans tout le renouveau intellectuel, citez-moi un nouvel intellectuel de gauche ou un intellectuel de gauche qui est valable aujourd'hui et qui est reconnu comme intellectuel.
Ah ben, je m'apprêtais à dire Benoît de Langalerie, mais effectivement, il doit être valable, tout de suite, on est...
Valable.
Oui, non, mais valable. Voilà.
La dynamique, elle n'est pas à gauche, ni dans les médias, ni dans le pouvoir intellectuel. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui sont couards.
Ils sont en retard. Ils sont couards et en retard.
Je donne un exemple à confirmer. Mais en ce moment, il y a la loi sur l'euthanasie qui est débattue à l'Assemblée. Et un camp qui a beaucoup de députés, c'est le Rassemblement National. On sait qu'il y a dans le Rassemblement National des députés qui sont très progressistes et qui n'hésiteraient pas à voter la loi.
Qui n'ont pas hésité à la voter déjà.
Oui. Qui n'ont pas hésité, mais le vote solennel est demain.
Oui, oui, enfin, dire, lors des premiers votes, c'est ça que je voulais dire.
Oui, oui, lors des premiers votes, et puis à la commission paritaire. Non, pas paritaire, à la commission des lois, là, vous savez, avant, là. Et il y a des gens au sein du Rassemblement national qui ont des postes importants et qui ne sont pas progressistes. Et qui pourtant, par couardise, par calcul bidon ou parce qu'ils pensent déjà comme des boomers, se sont félicités ou encouragés des députés du Rassemblement national progressiste à voter pour l'euthanasie pour ne pas qu'on paraisse comme si on était en fait des vieux conservateurs. Lors de la commission, avant, là, des lois, avant du vote, vous savez, ça passe en commission. Des députés du RN ont demandé à si c'était possible qu'il n'y ait que des gens du RN qui soient contre, qui soient présents pour une question d'équilibre, parce qu'en face, il y avait une majorité de pour. Bah, ces mêmes personnes, tout bien comme il faut, hein, que vous pouvez croiser au Pellet de Chartres et ailleurs, eh ben, ils ont dit non. Ils ont dit non, parce que vous allez voir l'image qu'on pense de nous, puis stratégiquement, c'est quand même pas malin. Et puis imaginons la loi par justice immanente ou divine providence ne passe pas, ça serait une victoire des LR, ça serait quand même dommage. Voilà où on en est aujourd'hui de nos politiques, si vous voulez. Donc en fait, le problème, il est politique. Il n'est pas autre chose que politique. Il n'est pas juridique. Un politique, il envoie chier le juridique. Et s'il n'est pas content, il fait un référendum. C'est uniquement du politique. C'est rien d'autre que...
C'est même pas le politique, c'est le politique, RN. Il faut dire des choses...
C'est le politique. Non, mais là, le politique RN, mais le politique LR qui a été au pouvoir.
Ah ouais, le politique LR, on sait, oui.
Aussi... Oui, on sait, mais en fait, le problème, il est politique, encore une fois. C'est que le politique qui n'est pas de gauche a tellement envie d'être respectable vis-à-vis de la gauche qu'on lui crache à la gueule et qu'il n'est pas respecté. C'est le principe. Ça a toujours été comme ça. Alors, on pensait qu'à une nouvelle étiquette, ça allait changer, mais ils ont le même cerveau malade. Ils pensent comme des vieux. Ils sont déjà finis, en fait. Donc, mais encore une fois, les intellectuels ne sont pas de gauche. Les dynamiques médiatiques n'est pas de gauche. La culture, ça commence à bouger. Il n'y a que le politique qui reste en pensant comme des boomers. C'est ça, le drame.
Ouais. Jean-Yves Le Gallou, vous qui êtes directement visé par ce jeune quinquagénaire, non pardon, quatragénaire.
Moi, je pense comme un jeune, donc c'est pas grave. Je ne me sens pas visé. Non, mais la lâcheté, effectivement, de ce qu'il appelle les politiques. Mais le problème, c'est qu'on a un peu l'impression, moi j'ai un peu l'impression, que le RN aujourd'hui est sur la ligne RPR d'il y a 40 ans, quoi. Et quand il y a 40 ans, j'entendais des partisans du RPR qui me disaient « Oui, mais on ne dit rien, on se protège, mais vous verrez une fois qu'on sera au pouvoir, alors là, ça va changer. » Bah, on a vu, il s'est rien passé. Parce que je crois effectivement, comme l'a dit Pouvremonti tout à l'heure, sur un autre sujet, à savoir l'immigration, c'est qu'on ne peut pas faire une fois au pouvoir ce qu'on n'a pas annoncé avant, à minima. Et dire on va arriver, et puis vous allez voir ce que vous allez voir, c'est pas vrai. Si on ne prépare pas l'opinion avant à des changements importants, eh bien, on ne les fait pas. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient? Ça va être intéressant. Mais si on reste sur cette ligne-là, ça fera flop.
Alexis Poulain, dans cette condamnation de CNews par l'ARCOM, alors qui n'est pas une condamnation, hein, une fois plus, c'est une mise en demeure qui ouvre un examen. D'ailleurs, tout ça, les Reporters sans frontières étant à la manœuvre systématiquement contre CNews depuis 2024 au moins. Et donc, ce sont des journalistes qui attaquent d'autres journalistes, ce sont des défenseurs de la liberté d'expression qui attaquent une expression libre. Est-ce que vous êtes, vous aussi, étonné du fait que la gauche se satisfasse qu'on soit à ce point-là en train de piétiner la liberté d'expression alors que c'était censé être son terrain?
Non, je ne suis pas étonné, puisqu'on voit totalement un changement de doctrine. Il y a l'idée que la censure est bonne pour un certain camp politique et qu'elle est mauvaise pour l'autre et qu'il faut donc absolument censurer. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je pense qu'elle est essentielle. C'est un pilier de nos sociétés occidentales. À partir du moment où on attaque ce pilier-là, on change de régime, on rentre dans autre chose et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et l'Europe, l'Union européenne, a un projet qui est de cet ordre-là. Donc, il n'y a pas de poids de mesure. Se réjouir aujourd'hui de la censure de certains, c'est ne pas voir que demain cette censure touchera tout le monde. Et le fait d'amputer le débat public d'une parole libre va fortement changer les mentalités. Donc, on ne peut pas accepter ça, tout simplement parce que ce serait un camp politique qui serait censuré et donc ça ferait le jeu de l'autre camp. Là, c'est une question de philosophie politique, c'est une question de société. Et comme vous l'avez bien rappelé, RSF est à la manœuvre. Il faut rappeler qu'il y avait les états généraux de l'information qui sont derrière tout ça. C'est l'Élysée qui a lancé cette manipulation. Et l'ARCOM est effectivement le bras armé. Mais on peut voir la même chose avec le CRIF qui également est en train d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour faire taire l'autre camp politique. On a ces deux facettes en fait qui organisent la censure actuellement du débat public. C'est irresponsable, c'est dangereux et c'est inacceptable surtout.
En tout cas, dans le cas de l'ARCOM, elle va très loin dans sa tentative de contrôle de la libre expression puisque, par exemple, elle relève, et c'est Maxime Saada qui le relève aussi dans sa lettre, de nombreuses émissions, notamment celles bénéficiant des audiences les plus significatives, en semaine, s'ouvrent par un éditorial de l'animateur. Les visionnages ont révélé que dans de nombreux cas, l'opinion exprimée au cours de ce propos liminaire définissait l'orientation et la tonalité générale du débat ultérieur. Donc autrement dit...
C'est normal,
oui,
c'est un travail rédactionnel.
Et l'ARCOM nous explique qu'une rédaction ne doit pas travailler comme ça. Une rédaction doit faire en sorte que l'animateur ne dirige pas les débats.
Il y a la loi de 1881 sur la liberté de la presse et c'est tout. Tout ce qui a été fait après est simplement dégueulasse et c'est en train de saboter le débat public en France et notre liberté d'expression. Je rappelle que l'ARCOM et le CRIF sont les signaleurs de confiance du DSA européen. Donc imaginez quand ces institutions vont passer leur temps à censurer les voix dissidentes et les médias engagés ou à consonance politique. On est dans un délire. Il faut que ça s'arrête parce qu'il n'y a pas de fin. Quand la censure commence, il n'y a pas de fin. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, toutes les oppositions politiques devraient se liguer pour dire stop. Or, ce qu'on voit, c'est une sorte de laisser-faire ou des rires sous cap pour dire bien fait pour toi, tiens, c'est ton tour, jusqu'au prochain. C'est inacceptable.
Il y a surtout une très grande... Xavier Van Lier, il reste 52 secondes.
C'est pas une conclusion, mais il faut souvenir que ce régime avait aussi proposé, imaginé, de créer un label à attribuer à différents organes de presse. Ce qui reboucle la boucle. C'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans les salles de rédaction pour expliquer aux journalistes comment travailler, mais aussi imprimer un label pour savoir qui est de confiance, qui n'est pas de confiance, qui a l'imprimatur et qui ne l'a pas. C'est proprement,
c'est fou. C'est fou.
Proprement délirante.
C'est délirant.
Eh bien, merci beaucoup. Un petit mot de la fin, Jean-Yves Le Gallou ?
Non, là je crois qu'on retrouve tout à fait la couardise. C'est-à-dire s'opposer à une loi liberticide, ça demande encore plus de courage que s'opposer à une loi immigrationniste. Et le courage, c'est ce qui manque le plus. Moi, j'ai suivi par la télévision, par la chaîne parlementaire, les débats quand il y a eu la volonté d'étendre aux propos privés la criminalisation des propos publics. Eh bien, j'ai vu les députés du Rassemblement national qui étaient présents là annoncer qu'ils voteraient contre et puis, au moment du vote, s'abstenir.
Et effectivement, c'est le courage qui manque. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers auditeurs. Demain, vous retrouvez Arthur de Vatrigan dans son Restons courtois. J'espère évidemment que la liberté d'expression fera partie du menu et je vous dis à la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant !